Sur le plateau du Théâtre de la Ville, à Paris en ce moment, devant 900 spectateurs chaque soir, Isabelle Huppert et Bérénice dans une mise en scène de Romeo Castellucci.
Eh bien, Titus, que viens-tu faire ? Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire ? Tes adieux sont-ils prêts ? T'es-tu bien consulté ? Ton cœur te promet-il assez de cruauté ?
Il est 19h sur France Culture et c'est la mise en scène d'une solitude. Bérénice est seule, Isabelle Huppert est seule sur le plateau, ou presque. Romeo Castellucci met en scène à la fois le personnage de Racine et l'actrice. Les deux sont révélés dans le même mouvement. Si c'est une des pièces les plus intérieures de Racine, on est là plongé dans le corps et l'esprit de Bérénice. C'est alors une traversée d'états violents, douloureux, puisque l'empereur Titus doit renoncer à son amour pour Bérénice, reine de Judée, pour le maintien de l'ordre politique et pour continuer à régner sur Rome. Romeo Castellucci a toujours eu un rapport fort à la tragédie grecque et à sa réactivation, et ici, à une langue où tout est dit pour être caché. Il ne se passe rien, tout est retenu, tout est bloqué, Bérénice ne pourra pas épouser Titus. Les deux amants renoncent à leur amour. On entendra seulement ces mots à elle, deux autres personnages, Titus et Antiochus, seront des présences fantômes, comme si on était dans l'esprit et le sentiment de Bérénice, à l'intérieur. À l'invitation d'imaginer un projet avec Isabelle Huppert, Romeo Castellucci pense à Bérénice, une actrice définitive pour une pièce définitive, dit-il. Il aime toujours écrire avec le son, écrire le temps, inventer un lieu. Les mots ne peuvent plus communiquer, ils peuvent produire du silence. Et ici, ils ont un impact direct sur le corps du spectateur. Ce n'est pas la première fois qu'Isabelle Huppert est seule en scène. Elle l'était l'an dernier dans la mise en scène de Bob Wilson, jouant Mary Stuart. Elle l'était au début des années 2000 sous la direction de Claude Régis. C'est une nouvelle rencontre ici avec un grand metteur en scène. Romeo Castellucci lui offre d'inventer un nouveau lieu à ses Alexandrins. Nous sommes donc au Théâtre de la Ville à Paris. La pièce Bérénice s'y joue jusqu'au 28 mars, avant de partir au TNB à Rennes du 15 au 17 mai.
Oui, ça va, voilà. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Nous nous sommes retrouvés dans un petit salon du théâtre le lendemain de la première.
Romeo Castellucci.
Isabelle Huppert.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Pour commencer, je vous fais juste écouter la voix de Marguerite Duras qui parle de la tragédie et en particulier de Racine.
On joue plein vivable au théâtre. La tragédie, je dis. La tragédie, c'est l'invivable. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, je crois qu'il n'y a de théâtre que tragique. Enfin, je l'entends de façon très large. Je crois que Molière, c'est tragique. Complètement, vous voyez. Et que tout ce qu'on essaye de faire maintenant au théâtre sera rejeté. Tous les siècles, il y a des tentatives de meubler le théâtre, d'accessoires comme ça, de pièces, c'est pas non classiques, mais de pièces non adéquates. On raconte autre chose que la passion. Et ça ne marche jamais. Je crois que ce qu'on peut jouer encore de plus jeune, au théâtre, de plus frais, d'inaltérablement frais, c'est Racine. J'en suis complètement persuadée.
Roméo Castellucci, Marguerite Duras, parle donc du théâtre et de l'importance de la passion et de la tragédie. Vous parlez de l'inactualité de Racine, elle parle de sa fraîcheur. En quoi l'inactualité de Racine et ce personnage de Bérénice vous a intéressé pour ce voyage et cette aventure avec Isabelle Huppert ?
Oui, non, je suis totalement d'accord. Avec les paroles qu'on a entendues, les mots qu'on a entendus. Racine, ça représente, à mon avis, la crise du langage et la tragédie, c'est exactement plongé dans le langage, dans l'expérience, dans l'échec du langage, donc on ne peut pas communiquer. Donc quelque chose est cassé, divisé dedans le langage. Donc, dans la possibilité d'être ensemble ou de partager des choses. Et donc, vraiment, c'est, malgré les vers alexandrins, et donc l'inactualité apparemment c'est inactuel, mais je pense que Racine, dans cette pièce, a touché vraiment un nerf qui nous concerne aujourd'hui. Et, c'est-à-dire, l'impossibilité de communiquer. Donc, c'est comment dire, la crise du langage, et ça, c'est un lieu d'abandon. On dirait qu'il y a déjà une goutte de poison qu'on a connu, par exemple, avec Beckett. Donc la parole, c'est une parole circulaire, malgré et grâce à la beauté. Donc c'est un paradoxe. Racine, ça représente un paradoxe. Malgré la poésie, la beauté, la perfection de la forme, le contrôle de la forme, de la poésie, on est devant une solitude extrême d'être humain. Et je pense que l'inactualité, c'est une façon d'être contemporain. C'est-à-dire sortir de notre contexte, aussi sortir de la société même, hein? Sortir aussi du propre corps, de propre expérience, pour regarder, pour avoir un regard à la distance, comme on dit, pour comprendre, pour avoir une conscience. Parce qu'effectivement, dans Bérénice, rien ne se passe. Il n'y a aucune action. Il y a trois personnages qui se parlent et ils s'éloignent à cause de la parole. Donc on dirait que c'est un monument de la solitude.
Et si c'est une langue qui ne sert pas à communiquer, qu'est-ce que les mots produisent pour vous ?
Les mots sont... Ça représente la crise de la communication. Par contre, il y a beaucoup de révélations et de contemplations. Parce qu'on est plongé dans une profondité qui perce la communication. On est dans une région beaucoup plus profonde qui appartient au corps, au réel du corps. Là où il y a les nécessités plus vivantes, la faim, la peur, la sexualité, les sons, la violence. Et il y a un côté, un ombre, il y a un ombre très sombre chez Racine, malgré la lumière incroyable de sa poésie.
Isabelle Huppert, je crois que dans la pièce Phèdre au pluriel de Varlikovsky en 2016, il y avait un fragment de Racine à la fin du spectacle. Mais à part ce moment-là, il y a peu de moments sur scène où vous aviez... pu jouer les alexandrins de Racine. Ça a été quoi, peut-être, les efforts à faire dans la langue et dans le travail avec ces vers ?
Il n'y en avait pas eu du tout d'autres, à part ce court moment de Phèdre que je faisais avec Christophe Varlikovsky. Ça n'a pas été un obstacle. Enfin, j'ai jamais pensé avant que Roméo me propose de jouer Bérénice, que j'avais jamais pensé avant. Ça ne me serait pas venu à l'idée toute seule. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi il a choisi Bérénice. Et ça me plaît de ne pas le savoir. J'aime bien rester dans cette ignorance. Mais je n'ai jamais considéré que c'était un obstacle. Je crois que c'est Patrice Chéreau qui disait que c'était une arme, les Alexandrins. Oui, ça peut être une arme à la fois offensive et défensive aussi. Défensive dans le sens que il y a aussi un plaisir, c'est presque un jeu de faire résonner ses 12 pieds à chaque fois, et pas forcément en respectant d'ailleurs la... la fluidité du verre à chaque fois, au contraire, parce que curieusement, au fur et à mesure, alors particulièrement évidemment dans le chant extraordinaire que m'offre Roméo Castellucci dans ce spectacle, curieusement, il y a quelque chose d'extraordinairement concret aussi parfois dans cette langue, qui donc en fait vous rend complètement libre et vous rend libre de l'emmener où on souhaite. C'est jamais une entrave, en fait. Jamais. Au contraire. Quelquefois, si on en respecte la forme, c'est plutôt un ami. Mais c'est pas une entrave. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai considéré comme une montagne à gravir dès le départ. Non. Tout est là, tout est... C'est que des états à transmettre. C'est rien d'autre. Finalement, avec l'aide de la beauté de la langue, qui est complètement là, de toute façon, quoi qu'il advienne. Il y a quelque chose qui résiste extraordinairement dans le cœur même de la langue de Racine, qu'on soit dans le respect absolu des vers, ou qu'il y a quelque chose, ou qu'on n'y soit pas, je veux dire. Je crois que la beauté de la langue, elle est là. Que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus.
Et vous parliez de solitude. La solitude de Bérénice, là, elle est actée dès le départ, puisque les personnages de Titus et d'Antiochus apparaîtront, mais plutôt comme des fantômes, comme des silhouettes, présentes ou passées même, et on est dans l'esprit ou la tête de Bérénice. Et le son, évidemment, est une des matières premières aussi du spectacle. Est-ce que c'est votre partenaire principal, Isabelle Huppert, le son et la musique?
Oui, enfin, j'en ai plein d'autres. C'est vrai que je suis seule sur scène. Maintenant, on peut le dire parce que tout le monde le sait, tout le monde va le savoir. C'est plus la peine de le garder comme un secret. Il y a une foule de partenaires quand on est seul sur scène. C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Souvent, ça peut faire peur. Une peur qu'on me prête, moi, que j'ai pas du tout, mais parce que de penser qu'on est seul et que, mais au contraire, ça ouvre des champs imaginaires. Absolument infini, puisque ça fait complètement exploser les représentations habituelles, qui sont quand même finalement plus des contraintes. Alors je dis pas que avoir des partenaires, c'est forcément une contrainte, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion souvent de jouer des monologues au théâtre, et je l'ai jamais pris comme un obstacle. Au contraire, ça fait exploser les dessins contraignants à la fois du récit, du personnage, des personnages, toutes choses qui sont finalement des limites et qui sont toujours de toute façon des représentations fausses. Le théâtre, c'est l'art du faux. C'est Bresson qui disait ça. Il disait le cinéma, c'est l'art du vrai, et le théâtre, c'est l'art du faux. Je suis pas sûre que le cinéma soit tant que ça l'art du vrai aussi, d'ailleurs, puisque de toute façon, c'est une reconstitution du réel. C'est faux, et le théâtre, c'est vraiment c'est le faux dans toute sa splendeur. C'est l'arbitraire pur. C'est l'unité de temps, l'unité de lieu. Donc, on a la chance que ça soit exactement exploré par quelqu'un comme Roméo. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est justement s'affranchir à l'infini de quelque chose contre lequel on peut pas lutter. C'est faux de toute façon. Donc.
Et justement, si on est plus soumis à la notion de personnage et que c'est plus vaste que ça, comment vous décririez la traversée, le chemin de Bérénice? Est-ce que c'est une traversée d'état?
Oui, c'est une traversée d'état, mais c'est toujours aussi peut-être remettre en jeu ce qui est fondamentalement le théâtre et le cinéma aussi, c'est la confrontation avec soi-même. Il n'y a que ça qui est intéressant. Et ça, je trouve que Roméo le prend complètement en compte. C'est évidemment Bérénice, mais c'est aussi une actrice qui chemine avec Bérénice. Mais c'est toujours ça, le théâtre. C'est des acteurs qui cheminent avec des personnages, qui cheminent avec des situations, mais ça les ramène à eux-mêmes. Et en les ramenant à eux-mêmes, évidemment, ça les ramène à l'autre, à celui qui nous regarde. Mais c'est pas autre chose, le théâtre. C'est une histoire entre soi et soi, finalement. Je crois que c'est Grotowski aussi qui disait le théâtre, c'est pas une histoire entre soi et le spectateur. C'est pas une histoire entre soi et son partenaire. C'est même pas une histoire entre soi et le texte et l'auteur, c'est une histoire entre soi et quelque chose de très mystérieux au-dessus de soi. Et je trouve que c'est une très bonne définition du théâtre. Ce très mystérieux au-dessus de soi qui serait un autre soi-même ou des milliers d'autres soi-même qui est toujours soi, justement. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec du narcissisme, enfin c'est autre chose. Mais voilà.
Et c'est vrai que ce qui est très fort dans le spectacle, Roméo Castellucci, c'est que vous faites apparaître Bérénice, vous faites apparaître cette solitude, et vous faites apparaître l'actrice Isabelle. Et je crois que vous disiez dans la préparation du spectacle qu'Isabelle Huppert était une actrice définitive pour ce spectacle. C'est quoi une actrice définitive?
C'est, comment dire, devant moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Isabelle. La chance de travailler sur Racine avec les Français d'Isabelle. Et je pense qu'il fallait une actrice, comment dire, qui représente les théâtres. Il y a chez elle, comment dire, une sorte de tautologie du théâtre. Quand Isabelle est sur un plateau, le théâtre est sur le plateau. Donc c'est comme une sorte d'épiphanie, à mon avis. Et ça, c'est évidemment, il fallait avoir un artiste gigantesque comme Isabelle pour aborder, pour affronter un personnage comme Bérénice. Donc il y a, comment dire, un aspect auto-évident, comment dire. C'est le théâtre qui est en jeu. C'est le feu central du plateau. Parce que nous, on peut changer les titres, on peut changer les sujets, mais c'est toujours, on est face au théâtre. Isabelle, ça représente la forme la plus forte, la plus puissante, la plus pure du théâtre, à mon avis.
Et quand vous arrivez en répétition ensemble au tout début, est-ce que vous avez déjà des images dessinées, ou est-ce que le champ est complètement ouvert et que vous cherchez ensemble ce qui va se dessiner ensuite?
Donc d'abord, on a commencé avec la voix et la parole. Donc c'est ça, parce que nous étions confrontés par les vers alexandrins, que ça, c'est la beauté, la proportion, la forme, l'architecture, mais aussi une cage. Par contre, la cage, les vers alexandrins, justement, sont des armes, mais sont aussi des armes de défense, justement, pour sortir de la cage. Donc, c'est aussi la forme pure de la poésie, ça représente aussi la limite, et on est toujours confronté à la limite. La liberté n'existe pas d'une certaine manière, non? Il faut une limite. Et la limite, la cage, la forme, ça permet aussi de sortir, d'échapper. Et avec Isabelle, à cause de son de l'art, du jeu, on commence avec un rythme, donc tout est cadré dans la forme, dans le tempo de l'alexandrin. Et à fur et à mesure, on échappe, on devient beaucoup plus organique, jusqu'à la fin, la dernière scène, qui est une scène d'aphasie. Et à la fin, toute fin, ça reste un bip. Donc tout est, comment dire, disparu. Mais ça commence dans l'architecture formelle de vers alexandrin. À cause de ça, je dirais. Grâce à ça.
Faire écouter la voix de Ludmila Michael qui jouait dans le Bérénice de Klaus Michael Gruber en 1984 et qui parlait de la façon dont ils ont répété ensemble. Ça, c'est une archive de 2008 où elle raconte la façon qu'ils avaient travaillé à l'époque.
Il montrait des maquettes. La costumière est venue assister aux répétitions. Je me rappelle avoir vu la première maquette de mon costume. Et je ne comprenais pas du tout, parce que je trouvais que c'était une égyptienne, alors qu'en fait, Bérénice n'est pas égyptienne. Donc j'avais posé une question et je n'avais aucune réponse. Et le regard bleu de Klaus, comme si j'avais 3 ans, ou une idiote, ou un enfant. Il n'y avait pas de réponse, en fait, aux questions un peu rationnelles, un peu de l'ordre du... Donc ces lectures se passaient, ils nous écoutaient, on interrompait les lectures... Et on n'avait pas de réponse. Et en fait, on était obligé de se cadrer. De temps en temps, ils disaient non, 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 non. Ah bon. Et en fait, on était dans le noir, on va dire, un peu à tâtons, comme un aveugle, qui va petit à petit trouver une lumière en retirant ce qui n'allait pas, on va dire. Parce qu'on se calait par rapport à ce qui n'allait pas. Donc on arrivait à comprendre, finalement, pour qu'il nous amène à ce qu'il attendait. Mais c'est long, un mois comme ça.
Donc, il n'enlève ce qui ne va pas et il ne dit jamais ce qu'il faut faire, c'est ça ?
Non. C'est un peu... je pense au travail du... Parce que j'ai beaucoup assisté à ça, au travail du saut d'obstacle par rapport à un cheval. Les grands entraîneurs font refaire tant que ça ne va pas. Et quand ça va, ils arrêtent. Et en fait, Klaus, quand ça allait, il arrêtait la répétition. C'est-à-dire pour nous laisser sur la sensation... pour que tout seul, on se raccorde à l'intérieur sur un ressenti. Qu'on allait, voilà, ça, stop, on allume les lumières. Mais pas d'explication théorique, rationnelle. C'est de l'ordre du ressenti.
C'est beau ce qu'elle dit. Oui, je crois que... Non, c'est beau qu'elle parle des questions sans réponse. Je crois qu'il ne faut jamais poser de questions quand on travaille, en général d'ailleurs. Les questions sont par définition incongrues et puis le travail au théâtre et au cinéma, enfin cette relation assez mystérieuse qu'il y a entre un metteur en scène et une actrice ou un acteur, c'est un langage. Donc il faut juste savoir écouter, l'entendre d'abord et écouter ce langage et le comprendre. Je pense qu'il faut arriver ni avec des questions, ni avec des idées surtout. Surtout pas avoir d'idées. Moi, quand je travaille avec Roméo, j'ai pas d'idées.
Ni de questions.
Ni de questions. Parce que j'ai bien plus que ça comme réponse, justement, que des réponses à mes questions ou que des réactions à mes idées. Des idées, il en a suffisamment aussi pour que j'ai pas du tout besoin d'en avoir. Mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis pas d'idées, oui. pense qu'il faut vraiment être un livre, une page blanche, un livre ouvert. Et c'est la meilleure manière d'être aussi le plus libre possible. C'est vrai que Roméo parlait d'une cage. Oui, bien sûr. Encore une fois, le théâtre en soi, comme dispositif, est une cage. Et toute grande mise en scène est une cage. Et c'est là où, oui, il y a comme un paradoxe, parce que c'est une cage qui à la fois vous enferme, mais vous rend complètement libre aussi, curieusement. Mmh. Et plus la cage est forte, et plus elle vous libère. Et c'est vrai que dans le spectacle, ça commence par une expression assez évidente de la cage, parce que une manière de respecter là pour le coup dans les premières minutes l'alexandrin, c'est même matérialisé par le gong. Et puis c'est assez extraordinaire pour moi au fur et à mesure effectivement que les verbes deviennent pratiquement prose bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a l'état prend le pas sur la forme, parce que la forme évidemment c'est très, oui, c'est une contrainte, et tout d'un coup la folie aussi, la douleur, la souffrance déborde et s'exprime de plus en plus facilement.
Et vous parliez de l'ombre aussi de l'écriture de Racine, de Bérénice. Le spectacle joue aussi avec ce qui est caché, ce qui est révélé.
Oui, parce qu'effectivement, la langue de la poésie cache beaucoup plus que révèle, non? C'est une façon de, en parlant, de cacher, par exemple, les sentiments. Et donc, ça, c'est le cas de Titus. Donc, la parole, contrairement, sert à cacher des choses. Donc, il y a tout un côté en ombre. Et c'est, on dirait, en termes dramaturgiques, c'est la partie qui pousse. C'est la partie qui a une opération. C'est la partie qui reste dans l'ombre. Et ça, c'est, dans le cas de Racine, c'est extraordinaire. C'est vraiment la forme la plus réussie dans ce sens.
Et vous parlez souvent, Roméo Castellucci, d'image comme quelque chose, comme un point qui doit briller dans le temps pour le spectateur. Comment on sait, parce que là on entendait Ludmila Michael qui disait il n'y a pas d'explication avec Gruber, mais il y a un moment on s'arrête parce qu'on sait que c'est bien et que c'est ça. Comment on sait que c'est ça, que l'image est là et que c'est un point qui va briller dans le temps?
Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on peut ressentir avec, pas avec une logique. Il n'y a pas une logique. Mais bizarrement, il n'y a pas une logique, mais il y a une exactitude de la forme. La forme, on peut dire, oui, qu'elle est là, mais c'est toujours un peu mystérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Ça peut arriver, ça peut pas arriver, donc c'est plutôt mystérieux, les rapports avec l'exactitude. Moi, je crois aussi dans les principes des contradictions, donc je n'ai pas une méthode, un style. Oui, peut-être, oui, mais si j'ai un style, c'est une faiblesse. Donc, il faut s'abandonner. Moi, je crois beaucoup à l'abandon. Moi, je ne suis pas un pédagogue. Et donc, moi, j'ai suivi Isabelle en tant que champ d'énergie. Et donc, j'ai travaillé en suivant Isabelle pour ce personnage. Et donc, voilà, c'est, pour moi, il y a un rapport pas de... De contrôle. Très souvent, c'est beaucoup plus productif la perte du contrôle, de donner la possibilité au désordre, au chaos d'entrer encore une fois dans l'acte de création. Il faut abandonner, il faut, comment dire, les tentatives de tout tenir. Moi, je crois beaucoup aussi à l'hasard, par exemple. Donc, il faut toujours laisser ouvert la porte à l'hasard.
My body bound at night on a bed. You operate the senses. I don't have you control operate of. The senses. You I do don't have control of we do you do each other train. We do each other train. My body on a bed. My body bound at night on a bed. You operate the senses. I don't have you operate the senses. You I don't have control of we do you do each other train. My body on a bed. My body bound at night on a bed. You operate the senses. I don't have you operate the senses. I don't have control. We do you to each other. We do each other. My body on a bed. My body down at night on a bed. Down at night. You operate the senses. I don't have control of. We do you to each other. We do each other.
Tous en scène sur France Culture, nous venons d'écouter le morceau Quiet Night de PMXPER. Nous sommes toujours au Théâtre de la Ville avec le metteur en scène Romeo Castellucci et la comédienne Isabelle Huppert. Le spectacle Bérénice s'y joue jusqu'au 28 mars et sera à Rennes au TNB au mois de mai. On a poursuivi la discussion avec Isabelle Huppert en écoutant à nouveau la voix de Ludmila Mikhaël. À l'époque, en 1984, elle joue Bérénice sous la direction de Klaus Michael Gruber.
Et pourquoi faire dire le texte en chuchotant, d'une voix étouffée et presque inexpressive dans certains cas?
Je pense pas que ça, il n'ait jamais demandé ça, parce que je crois que son travail est essentiellement basé sur l'intériorité. Ce que je crois qui est bien pour Racine, car je pense que c'est le grand maître de l'exploration du cœur, au fond, et des secrets. Donc, au fond, il est parti du secret des cœurs. Donc, le secret des cœurs a ce danger qu'à force d'être secret, il ne parvient plus. Et il nous disait souvent, parce qu'on a fait tout un travail donc de secret, d'intériorité, d'intensité, il nous parlait du cœur sanglant, du cœur saignant. Il nous a fait « Faites attention, je ne connais pas votre salle, mais je ne veux pas qu'on dise de mon spectacle que c'est un spectacle avant-gardiste, moderniste, où l'on n'entend rien. Et méfiez-vous. » Et nous, c'est vrai que sans doute, sûrement, avec le trac des premières, on n'a pas tout le temps, au fond, on n'est pas arrivé à transposer assez. Mais je ne pense pas qu'il ait voulu qu'il y ait difficulté d'écoute. Mais c'est peut-être nous qui, ayant travaillé trop, peut-être à l'intérieur, n'a pas fait... Enfin, je pense. Mais je ne pense pas qu'il ait voulu. C'est sûr qu'il ne veut pas de cri, qu'il ne... Au fond, il a essayé de débarrasser le verre de l'emphase. Mais je crois que si les choses sont très fortes à l'intérieur et la parole très claire et très simple et très pure, je crois que ça peut parvenir. Enfin, j'aime cette proposition, personnellement.
Seigneur, tous ces regrets de votre piété sont de justes effets. Mais vos pleurs ont assez honoré sa mémoire. Vous devez d'autres soins à Rome, à votre gloire. De mon propre intérêt, je n'ose vous parler. Bérénice, autrefois, pouvait vous consoler. Avec plus de plaisir, vous m'avez écouté. De combien de malheurs pour vous persécuter, vous ai-je, pour un mot, sacrifié mes pleurs. Vous regrettez un père. Las, faible douleur. Et moi, ce souvenir me fait frémir encore. On voulait m'arracher de tout ce que j'adore. Moi, dont vous connaissez le trouble et le tourment quand vous ne me quittez pour quelques moments.
Isabelle Huppert.
Oui, moi j'ai pas vu la mise. J'adorerais la voir. J'ai l'impression que les acteurs jouent certainement différemment de ce qu'il m'est permis de faire dans ce spectacle. Et c'est normal. Il y a mille manières d'affronter cette langue. Peut-être la meilleure manière, c'est quand même au fond de pas la respecter, c'est-à-dire il y a pas une bonne manière, donc ça peut être que subjectif, et le subjectif c'est forcément une forme d'irrespect, justement de liberté qu'on prend face à ce qu'on imagine être une convention, laquelle au fond on n'en sait rien, il y a un mystère absolu. Ce qui est sûr, c'est que cette langue, oui, on peut choisir de la dire comme Lémilia Mekel le décrit. Après, l'expression est quand même très très forte à beaucoup de moments dans la langue, justement, sur les cris, sur les pleurs. Il y a quelque chose de très 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 exprimé aussi. Donc, on peut l'apprendre un peu par tous les, par tous les bouts qu'on veut. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, oui, il y a une représentation comme ça un peu, comment dirais-je, quand elle parle de l'emphase, elle a raison, qu'on accole à Racine, et que là, on n'est pas du tout, enfin, la meilleure manière, je pense, ça, c'est de s'affranchir à ça. Il y a une représentation, oui, un peu, je sais pas, un peu éternelle sur cette langue, parce que le mot emphase est juste, alors qu'en fait, c'est une langue, elle est tout sauf emphatique, justement. Donc, il y a aussi, indépendamment de la langue elle-même, elle est liée aussi à un code de jeu qui, bien évidemment, n'existe plus depuis longtemps. Mais la langue classique est forcément reliée à ce qu'on imagine. On n'a pas tellement de traces de ça, d'ailleurs, mais ce qu'on imagine être le jeu d'une époque qui était effectivement un jeu qui reposait sur l'emphase, sur la projection, sur la théâtralité. Et comme entre-temps, des personnes comme Roméo, justement, savent que... Enfin, le théâtre tue le théâtre constamment. Le théâtre, il n'est fait que pour être tué. Donc, que pour abolir des conventions, que pour abolir des manières de faire qu'on a déjà entendues. C'est Claude Régis, moi, qui me disait tout le temps ça. Le théâtre doit tuer le théâtre, tout le temps. Et c'est vrai. Et moi, toutes les grandes aventures au théâtre que j'ai pu avoir, et effectivement, et c'est là plus que jamais, c'est une manière de tuer le théâtre. Tout le temps, parce que le théâtre, il ne peut être que tué pour vivre. Sinon, il est voué à l'échec, à mon avis. Donc...
Et justement, en effet, Claude Régis qui déthéâtralisait le jeu de l'acteur, ou je pense aussi à des metteurs en scène comme Peter Zadek qui disait faire du théâtre sans faire du théâtre. En quoi ces metteurs en scène-là, et peut-être en particulier les metteurs en scène allemands, je sais que vous en parliez, Isabelle Huppert, comme peut-être Gruber ou même Peter Stein, ont ouvert des nouvelles possibilités de jeu pour vous?
Moi, j'ai jamais travaillé avec Peter Stein ou avec Klaus Michael Gruber, qui sont d'ailleurs certainement très différents l'un de l'autre.
Mais avec Claude
Régis. C'est vrai que j'ai eu la chance avec
ou Bob Wilson.
Avec Peter Zadek, oui, ou avec Bob Wilson, évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que justement, ils se sont jamais adressés à moi d'abord comme une actrice de théâtre, déjà pour commencer. Enfin, encore une fois, plutôt comme une personne, tout simplement. Donc, ça, c'était évidemment très libérateur. Et alors, je ne sais pas d'ailleurs qui peut être considéré à l'heure actuelle comme une actrice de théâtre ou pas comme une actrice de théâtre. Encore une fois, tout ça ne peut rien dire. Et heureusement d'ailleurs, on s'adresse à des personnes qui s'expriment tout simplement. Et Zadek, oui, c'était lui. Il pratiquait ce que j'appelais à l'époque un peu l'esthétique du lait. Enfin, il y avait une force et une grandeur, mais dans une proposition où la laideur n'était pas absente. Et c'est cette laideur qui était vraiment intéressante, je trouve, chez Zadek. La laideur comme une des composantes aussi de ce qu'on est tous, forcément. On est tous beaux et laids. Et le monde est beau et laid. Plus souvent laid que beau. Faut bien dire, malheureusement. Donc voilà, Zadek, il donnait un accès très 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 fort à ça, et c'est parfois d'ailleurs pas souvent compris ou accepté. Puis alors, il disait aussi autre chose qui me plaisait beaucoup. Il disait, c'est pas grave si les spectateurs doivent tendre l'oreille pour vous entendre, c'est bien aussi. C'est vrai, ça sollicite aussi peut-être un spectateur au fond un peu actif, alors pas uniquement sur ça, mais sur plein de choses. J'aimais bien cette idée que le spectateur doive être ou tendre l'oreille et un accès à lui-même au fond auquel il n'a pas l'habitude non plus. Je pense que c'est ce que les spectacles de Roméo proposent aussi. Donc, ça surprend. Et c'est bien. Que d'être confortablement, peut-être assis dans son fauteuil.
Qu'est-ce qui se passe idéalement dans le corps du spectateur, Roméo Castellucci?
Ben oui, je crois que le corps du spectateur, c'est le destin, c'est l'horizon, c'est le plateau définitif où on va jouer par du vrai. Et donc c'est aussi un combat intime que chaque spectateur éventuellement peut avoir. Il s'agit d'une rencontre avec soi-même, non? Chaque fois. Devant une œuvre d'art, c'est toujours une confrontation avec nous-mêmes, dans une forme de solitude extraordinaire. Il s'agit toujours, d'une certaine manière, d'un miroir obscur, mais d'un miroir.
Et vous parliez de Claude Régis, Isabelle Huppert. Je vous fais écouter sa voix qui parlait d'un spectacle que vous aviez fait ensemble en 2002, 448 Psychose de Sarah Kane. Et là aussi, il était question d'une expérience pour le corps du spectateur et pour le vôtre sur scène. Ça, c'est sa voix en 2006 où il raconte un peu comment vous aviez trouvé le spectacle.
J'ai lu 448 Nuits d'insomnie, comme ça, en 2 heures, et j'ai communiqué avec le texte immédiatement, donc j'ai tout de suite eu envie de le faire. Et c'est vrai que, dans ce même temps, j'ai pensé à Isabelle Huppert tout de suite, que je connaissais un peu, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble Jeanne au Bûcher.
Vous l'aviez à l'Opéra Bastille, littéralement suspendu dans les airs.
Oui, mais alors voilà, on dit je l'ai suspendu, on croit que les metteurs en scène sont sadiques, mais ce qu'il a suspendu, c'est l'architecture catastrophique des théâtres à l'italienne. C'est-à-dire que si on fait des étages extrêmement hauts et qu'on laisse les acteurs en bas, les gens du haut voient une fourmi. Et que par conséquent, pour compenser cette catastrophe, on est forcé de remonter l'image.
Donc après avoir suspendu Isabelle Huppert, vous l'avez mise à terre.
Je l'ai mis à terre,
mais je l'ai
quasiment cloué de la même façon. Mais c'était pour répondre à cette injonction de Sarah-Ken qui dit rien qu'un mot sur une page, il y a le théâtre. Donc il s'agit pas de faire du spectacle, de faire du remplissage de la représentation. Et en même temps, je dis ça, mais on n'est pas si intelligent que ça. Simplement, on essaye aussi. Hein. Et j'ai essayé de la faire bouger, j'ai essayé de la faire passer dans les fonds, j'ai essayé de faire que l'acteur qui dialoguait avec elle passe devant, qu'il y ait des croisements. Ça ne marchait pas du tout. Comme quand on a essayé de faire la montée anglaise, on s'est aperçu que si on essayait de faire bouger les acteurs, ça n'avait aucun sens, que ça détruisait le texte, finalement. Donc c'est aussi de façon pragmatique qu'on s'est aperçu que l'immobilité était la plus forte et que dans le temps où on a découvert qu'elle était immobile, on a immédiatement compris qu'il fallait par contre que la lumière change énormément et change autour d'elle. Et donc la modifie complètement son apparence et modifie complètement les états de réalité et même la personnalité, ce qui se rencontre très bien parce qu'Isabelle est quelqu'un qui a ce don extraordinaire de changer de personne et d'âge d'un instant à l'autre, et que en même temps, la maladie conduit à la démultiplication des personnalités. Donc tout tombait juste, et tombait juste dans cette immobilité.
Oui, je suis très touchée d'entendre la voix de Claude, Régis, ça c'est sûr. Et oui, je me souviens très très bien de la manière dont on était arrivé à cette station immobile. C'était assez incroyable parce que on avait répété très très longtemps, effectivement, en explorant d'une manière d'ailleurs très libre, enfin des déambulations, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'une mise en scène naissante provoque comme exploration. Et puis peu de temps avant la première, quand on était déjà au Tas des Bouffes du Nord, parce qu'on avait répété dans un autre lieu avant. Et puis plusieurs fois, je suis passée par cette station immobile, puis je m'arrêtais pour dire le texte, mais d'une manière complètement inconsciente. Enfin, et puis tout d'un coup, comme je m'arrêtais de plus en plus longtemps à cet endroit-là pour dire le texte, tout d'un coup, il m'a dit. Ah bon, bah finalement non. Finalement, on a trouvé, c'est fait. Voilà. Mais ça raconte bien aussi ce qu'est la mise en scène aussi, je trouve, la des grands spectacles. Je trouve quelque chose aussi qui advient. Il y a un endroit ou un moment où il y a quelque chose du spectacle qui se fabrique un peu. Par lui-même, il y a quelque chose, on est parfois un peu, ça, Roméo peut le dire plus que moi, mais j'ai un peu l'impression que on est presque devancé par, il y a quelque chose qui arrive, parce que ça doit arriver, tout simplement. Voilà. Et l'acteur, il le ressent très très fort, enfin, c'est très agréable aussi. La mise en scène, c'est pas un agent de la circulation, hein. c'est comme ça, un monde qui se crée, en fait, qui est un monde qui est nu au départ, et puis ça s'invente, ça se crée, puis ça se crée parfois à son insu, enfin j'ai l'impression. Et comme si on était raconté par le spectacle à un moment donné, que si le spectacle voulait lui-même raconter quelque chose, je ne sais pas. J'ai l'impression, non ?
Je suis totalement d'accord.
Et puisqu'on remonte le temps, une question, Roméo Castellucci, vous parlez souvent d'une bascule quand vous avez 15-16 ans, parce qu'avant, vous parlez d'un rapport un peu brutal à la vie, de pas beaucoup de désir, et puis vers 15-16 ans, vous vous plongez dans les livres d'histoire de l'art, de sculpture, de votre sœur aînée qui étudie l'histoire de l'art, et je crois que vous voyez un spectacle de Carmelo Bene,
Oui.
Et là, vous dites, j'ai compris quelque chose de ce qui peut justement se passer sur scène, et c'était comme une leçon aussi de théâtre et de violence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui vous accompagne peut-être encore aujourd'hui?
Oui, c'est vrai, il m'accompagne même aujourd'hui. C'était une expérience brûlante, donc une sorte d'épiphanie que j'ai reçue quand j'étais un adolescent, donc dans un âge très particulier où on a besoin d'une lutte, même violente, avec la vie, avec le monde. Et là, moi, j'ai trouvé la réponse dans l'esthétique. Et donc là, à l'époque, il y avait la politique. Donc, mes amis, les personnes comme moi, il y avait, comment dire, un engagement politique. Et moi, j'ai choisi un autre champ. C'était celle de l'histoire de l'art. Pour moi, c'était un découvert incroyable de découvrir là. Il y avait une histoire, il y avait des tableaux, il y avait des sculptures. Et donc, je me suis vraiment plongé comme un fou dans la découverte de ce monde. Et après, par hasard, j'ai découvert le travail de Carmelo Bene. Et c'était un coup de foudre, comme on dit. Et là, j'ai appris que la parole au théâtre, c'est absolument pas quelque chose qui peut illustrer. C'est la lutte. C'est justement la crise. Et avec Racine, avec Isabelle, dans ce spectacle, on est encore là. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Et ce n'est pas quelque chose. Le rapport avec la parole, ce n'est pas quelque chose qui. Le théâtre, ce n'est pas une deuxième branche de la littérature, je veux dire. Il y a un corps. Et ça, c'est aussi la leçon d'Artaud. Hein. Mais donc là, on a l'expérience du corps de l'acteur, évidemment, qui brûle. Mais il y a l'expérience du spectateur, qui est la plus, qui est l'abîme, comme on dit, c'est l'inconnu par définition. Et donc tout ça à cause, je pense, de la rencontre avec ces personnes troublantes qui étaient Carmelo Bene.
Carmelo Bene, metteur en scène, acteur italien, fondateur du Nouveau Théâtre Italien en 1996, au micro de Laure Adler.
Le théâtre, c'est un non-lieu. Donc, le théâtre, c'est quelque chose d'incompréhensible, de noir, du moment qui. D'incompréhensible, oui, qui réclame de l'abandon. Pas seulement de la part de la machine attoriale, c'est-à-dire c'est qui ont dépassé l'acteur, le dépassement de l'acteur. Même le dépassement du spectateur, il faut qu'il s'agisse d'un spectateur, comme disait Nietzsche, est tout à fait esthétique et pas critique.
Questo Duncan è stato così mite, così limpido nell'alto suo ufficio e squillanti della voce degli angeli le sue virtù grideranno l'orrida colpa del suo assassinio. Ela!
Je sais pas si ça peut résumer tout ce qu'on vient de dire, mais moi, je crois qu'une des plus belles choses de ma vie que j'ai vues au théâtre, c'est un moment d'un spectacle de Romeo Castellucci, un opéra qui était à Aix, de Mozart, c'était Requiem.
Oui, le Requiem.
Et à un moment donné, dans ce spectacle, Romeo, il laisse un petit bébé, seul en scène, tout nu, pendant très 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 longtemps. Et je crois que c'est vraiment une des choses les plus extraordinaires que j'ai vues de ma vie au théâtre. Dans ce que c'était de. C'était bouleversant. C'était troublant. C'était un peu une transgression aussi, comme souvent et comme le théâtre doit l'être. Je sais pas, c'était vraiment une image et un moment extraordinaire qui questionnait tout le monde dans beaucoup d'endroits. Hein. Il y a aussi des gens qui étaient qui résistaient, mais c'était, je sais pas comment dire. En tous les cas, je m'en souviendrai toute ma vie.
C'est vrai, c'était troublant. Hein.
C'était très troublant. Mmh.
Oui, je l'ai pas vu.
C'est pour moi. Oui, moi, j'avais peur. J'avais la terreur, même.
Mais il était tout petit, donc il pouvait même pas rouler.
Ah, hein. Oui. Il tout était là. En fait. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Il n'était pas en danger. Mais c'était incroyable.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, à la prise de son Michael Simon, au mixage Mathieu Leroux.